France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Jérôme Cordelier du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotresse du Cevipof. On parle donc des CRS dans un établissement étudiant. C'était hier à Sciences Po. Évacuation de 70 étudiants dans le calme, sans incident, dit la préfecture de police. Une cinquantaine avait quitté les lieux, dit également la préfecture, les lieux d'eux-mêmes. Une dizaine de tentes avaient été installées dans la cour par le comité Palestine de Sciences Po pour dénoncer la situation à Gaza. La direction dit, elle, dans un communiqué, avoir craint un début de tension, ce qui choque évidemment ces étudiants qui étaient de retour à la mi-journée, toujours à Sciences Po, et qui a rencontré Thomas Séchier pour France Info.
Il y avait 20 camions de CRS comparé à un événement qui était pacifique.
C'est quand même honteux de voir que la police puisse rentrer dans une institution universitaire.
C'était une action tout à fait pacifique. Vu les vidéos, il n'y avait pas d'émeutes, il n'y avait pas d'incitation à la haine, je pense.
Voilà, alors on a évoqué plusieurs fois les manifestations, la conférence de Jean-Luc Mélenchon qui a donné lieu à des affrontements en début de semaine. Mais là, envoyer la police sur des lieux d'études, une ligne rouge est franchie par la direction de Sciences Po, c'est ce que dit Inès Fontenelle qui est élue de l'Union étudiante. Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno Cotresse?
Il faut rappeler d'abord qu'il y a des règles. On n'est pas dans une société qui est sans règles de ce point de vue-là. C'est-à-dire la police ne peut pas intervenir d'elle-même dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça, c'est juste pas possible. Si elle intervient, ça va être souvent à la demande du président de l'université. Quand celui-ci considère que deux paramètres sont directement, au fond, sensibles, à la fois la question de la sécurité, de l'ensemble des personnels qui sont sur un site, étudiants, personnel académique, personnel qui participe à la vie d'un établissement d'enseignement supérieur, donc la question de la sécurité, la question de l'ordre public, on va dire les choses comme ça, ou menace sur la liberté académique directement, liberté d'enseigner, de faire de la recherche. Donc c'est pas du tout quelque chose qui peut être fait comme ça sans règle du jeu. Si une occupation a lieu d'un bâtiment universitaire, le président de l'université peut demander au préfet la prise d'un certain nombre de mesures qui peuvent être effectivement le recours à la force publique. Il y a la saisine possible d'un juge administratif. Donc voilà, tout ça n'arrive pas hors de toute règle.
Oui, il y a un cadre légal clair.
Voilà, évidemment, comme toujours, la tension et la difficulté habituelle, c'est la combinaison de la liberté d'expression qui est reconnue par le code de l'éducation. Et puis de la sécurité qui est tout aussi reconnue par le code de l'éducation.
Il y a un autre texte moi que j'avais relevé du juridique de la conférence des présidents d'université qui dit que le président d'université peut être tenu d'une obligation d'intervention pour garantir l'ordre public dans des circonstances graves. Et là, la question, c'est de savoir si on était dans des circonstances graves. Claire Planchard.
Oui, et c'est le débat qui se porte alors, dans un autre cadre juridique dont je ne suis pas spécialiste, mais aussi aux États-Unis, puisque les étudiants de Sciences Po se sont eux-mêmes appelés d'une solidarité avec ces mouvements qui ont lieu notamment à Columbia.
On est manifestement assez loin de ce qui se passe sur le sol.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des échanges universitaires avec Columbia et certains étudiants de Sciences Po ont dit que voilà, ils étaient en lien avec eux et que c'est vrai que c'était un mouvement de manifestation qui s'inscrivait un peu dans ce qu'on voit aujourd'hui, aux États-Unis où les forces de l'ordre aussi pu intervenir. Et c'est vrai que quand on écoute les uns et les autres, notamment aussi des associations étudiantes juives qui participent à ces sit-ins, à ces campements, et elles expriment le fait qu'il n'y a pas d'antisémitisme.
Pas les mêmes.
Voilà.
Pas les mêmes campements, mais.
Voilà, mais voilà qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Enfin, on voit la difficulté, en fait, comme vous disiez, dans ce contexte, à essayer de discerner d'un côté la ligne rouge de la légitimité de cette intervention de défense de l'ordre, et puis effectivement, est-ce qu'on est sur une liberté d'expression ou est-ce qu'il y a l'expression au contraire de propos antisémites, racistes, d'appels à la haine. Enfin, c'est extrêmement compliqué. On voit qu'il y a toute une séquence dans le monde universitaire, que ce soit lors d'intervention de politique ou l'intervention, justement la venue un peu inopinée de Gabriel Attal dans Sciences Po qui a suscité de l'émoi, parce qu'en fait on est là sur la liberté on est dans des lieux où on débat, on est dans le rationnel, l'échange de pensées, et on se rend compte que ce climat est tellement tendu, clivant, que même ces lieux qui sont des lieux d'un certain élitisme intellectuel, il y a des crispations qui font qu'on n'arrive pas à voir, en fait.
Est-ce que la pression qui a été mise, effectivement, sur cette direction, qui en plus a changé plusieurs fois, et ça c'était juste après la démission de Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po, est-ce que tout ça explique peut-être que la direction de Sciences Po ait donné le feu vert, parce que c'est elle qui autorise les forces de l'ordre à rentrer dans l'établissement. Est-ce que c'est cette pression-là qui est alors excessive ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Le problème, c'est qu'il faut remettre de l'ordre à Sciences Po. Alors, c'est sûr que c'est malheureux de le faire ainsi, mais le problème, c'est que c'est une école. Je regarde ça en tant qu'ancien élève de manière un peu désolée, quoi. Enfin, c'est terrible ce qui se passe à Sciences Po. Enfin, pardon de parler sous le regard sourcilleux de Bruno Cotterêts.
On est si sûr qu'il y a besoin de remettre de l'ordre. Je veux dire, des manifs à Sciences Po, que ce soit déjà, des étudiants politisés, ça a toujours été le cas.
Je veux dire, c'est quand même Sciences Po part à volo, sans faire de mauvais jeu de mots.
Là, vous parlez de la direction.
De tout, l'ambiance qu'il y a à Sciences Po. C'est-à-dire que c'est devenu une espèce l'image qui est projetée de Sciences Po à l'extérieur, c'est une espèce de cours des miracles, un capharnaüm de maison qui n'est plus du tout tenue, quoi. Je me demande
si le propos n'est pas exagéré.
Non, mais c'est pas globalement les commentaires qu'on a. Il y a eu, et il s'agit pas de les minimiser, cette fameuse manifestation, etc.
Regardez la réputation de l'établissement.
Je voudrais faire juste deux observations. La première, c'est pas vraiment ce qu'on vit à l'intérieur de l'établissement Sciences Po, qui est, comme dans toute université, on a été étudiantes les uns et les autres. On a déjà vécu, évidemment, des moments de mobilisation, de contestation, d'occupation, de grève, etc. Mais en interne, c'est pas du tout, effectivement, ce tableau
apocalyptique. Mais moi, je parlais du rayonnement de l'établissement.
Le rayonnement, et par ailleurs, la direction de l'établissement, tout au long de l'automne, depuis le 7 octobre, a beaucoup communiqué en interne sur le respect des principes cardinaux de la vie à Sciences Po, c'est-à-dire le respect de l'autre, les arguments de la raison, l'échange académique, et la direction de l'établissement a multiplié les communications à l'adresse des personnels, des enseignants, quelle conduite tenir.
Mais c'est pas l'image qui est renvoyée.
Oui, c'est pas l'image qui est renvoyée.
C'est ça, le problème, c'est la réputation de l'établissement, l'image et ce que ça donne comme image avant un établissement qui était élitiste et qui maintenant a une
mais qu'il est toujours déplorable. On est là aussi pour essayer de tirer justement le vrai du faux dans cette image-là, Jérôme. Au-delà effectivement des moments qui ont été très médiatisés, mais qu'en est-il réellement? Enfin, c'est intéressant d'entendre effectivement Bruno Cotterêts.
La réalité, c'est qu'effectivement, c'est une grande université internationale de recherche et d'enseignement qui vient d'obtenir un classement très élevé parmi les universités mondiales pour l'enseignement et la recherche dans le domaine de l'analyse politique en particulier, et un établissement où les chercheurs comme moi, dont je suis, ne souffrent nullement d'aucune restriction académique sur la possibilité de faire leurs enseignements et de faire leurs recherches en toute liberté de ce point de vue-là. Et le fait qu'il y ait des tensions, ça concerne sans aucun doute d'autres établissements universitaires. C'est vrai que Sciences Po fait l'objet de beaucoup d'un focus et d'une attention extrêmement forte. C'est un établissement assez prestigieux, assez renommé.
Comment vous expliquez ça? Parce que c'est l'école qui a formé bon nombre des dirigeants du pays.
C'est une école qui forme un bon nombre de dirigeants du pays, dont sont issus de nombreux membres du gouvernement, de la haute administration. Donc forcément, tout ce qui s'y passe a un effet, une résonance extrêmement importante. Mais voilà, je tiens à dire vraiment que la direction de l'établissement a beaucoup communiqué en interne sur le fait de respecter les principes cardinaux de la vie académique, et notamment la tolérance vis-à-vis de l'opinion des autres, le respect des grandes valeurs académiques qui sont le cœur de notre métier.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bruno Cotterêts est là, chercheur CNRS au CEVIPOF, Claire Planchard, rédactrice en chef information générale du groupe EBRA, Jérôme Cordelier, chef du service France au Point, et on part à Venise, comme promis. Alors, ce péage pour visiter Venise à la journée, c'est une première mondiale. C'est une expérience, en l'occurrence, qui vise à endiguer le surtourisme et ses nombreuses dégradations. On va écouter l'adjoint au tourisme de Venise, donc Simone Venturini.
Le but de cette mesure, c'est de décourager les visiteurs ces journées-là et ça les incitera à venir à Venise à d'autres périodes moins fréquentées et donc de créer moins de stress pour la ville ces jours-ci.
Voilà, quand il dit ces jours-ci, il faut préciser que 29 jours de grande affluence sont concernés, en gros les week-ends de mai à juillet. 5 euros par touriste depuis ce matin. À la mi-journée, les comptes qu'on avait, c'était 13 000 billets qui avaient été vendus. Voilà, j'essaie d'être complète. Et une amende de 50 à 300 euros pour les contrevenants qui n'ont pas le fameux QR code qu'il faut télécharger contre les 5 euros sur le site internet. Payer pour rentrer à Venise, comme ça, est-ce que ça vous choque?
Moi, non.
Jérôme Cordelier.
Non, ça me choque pas. Enfin, je veux dire, Venise, c'est un musée à ciel ouvert. 5 euros, 29 jours par an. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas se faire plus zélé.
C'est plus le principe qu'autre chose, Bruno Cotrès.
Non plus. Je trouve que...
Notre débat va être vite terminé.
Voilà, le coût d'entrée à Venise existe déjà. Les parkings qui sont à l'entrée de la ville sont déjà assez pas mal payants. Effectivement, 5 euros de plus sur le budget de tourisme à Venise, ce n'est pas beaucoup. Après, effectivement, la question, ça va être comment est utilisé la collecte de cette taxe, on va dire. Est-ce qu'elle est faite pour préserver Venise? Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un musée à ciel ouvert. C'est la preuve que l'être humain a pu faire des choses absolument inouïes, d'une beauté.
Mais justement, en fait, ce sont des espaces. Rentrer dans un musée, c'est une chose, et Dieu sait qu'il y en a à Venise. Visiter une ville... c'est quand même un pas. C'est pas rien, quoi, Claire Planchard.
Oui, après, c'est surtout l'efficacité de la mesure qui est assez décriée, parce que, comme vous avez dit, c'est sur une trentaine de jours dans l'année. Il y a beaucoup d'exemptions, hein, pour les jeunes, il y a pas mal de choses. Et c'est surtout que ça permet effectivement de réguler, de se dire que notamment les gens qui n'habitent pas très loin dans la province, voilà, peuvent venir à d'autres moments que dans ces moments où il y a forte affluence. Mais quand on parle de surtourisme ou surfréquentation, de tout l'impact que ça a sur la vie des Vénitiens qui sont, voilà, la population se réduit parce qu'en fait, les principaux, cette commune ne cherche pas à lutter contre le tourisme, l'aéroport va s'agrandir, les capacités hôtelières s'agrandissent. Alors effectivement, les croisiéristes doivent rester un peu en dehors de la ville, mais en revanche, ils ont des ambitions sur le tourisme. Là, en fait, tous les experts, on a fait un dossier ce matin dans les quotidiens du groupe Ebra, disent en fait, ça va être très peu efficace en fait pour lutter contre le surtourisme. En revanche, effectivement, ça va peut-être permettre de réguler un peu les flux. Et tout le monde dit que si on ne s'attaque pas au logement, notamment au Airbnb, au logement meublé, enfin qui font que les habitants ne peuvent plus payer leur loyer, quittent la ville et deviennent une ville musée. En fait, c'est ça. En fait, le symbole de payer un ticket, c'est le symbole d'une ville qui devient un peu un Disneyland, un parc d'attractions, qui n'a plus son âme avec ses vrais habitants, sa vraie activité. Donc sur le fait que voilà qu'on demande effectivement à payer, je trouve pas ça choquant dans l'absolu, mais l'efficacité en tout cas pour lutter contre un tourisme de masse est très très... En tout cas, le montant n'est pas suffisant pour être véritablement dissuasif. Effectivement, la question de l'utilisation de cette somme sera intéressante, mais c'est pas ça qui va vraiment dissuader des gens qui ont fait tout ce chemin pour venir là. Et en tout cas, quand on voit que l'aéroport grandit et qu'il y a vraiment des ambitions touristiques dans cette ville, c'est un peu le message est un peu ambigu.
Hein. Juste pour avoir les ordres de grandeur, c'est 50 000 habitants au centre-ville aujourd'hui, 100 000 touristes dorment à Venise, en plus des dizaines de milliers
qui
viennent pour la journée.
Ça ne concerne pas les gens qui viennent, donc en fait, il y a une ambiguïté. Alors,
Bruno Cotrès,
il y a une autre commune, alors je n'arrive plus à me rappeler, qui avait en projet, je ne sais pas si ça a été fait,
dans le coin là-bas,
d'interdire que les touristes, en particulier ceux qui logent dans du Airbnb, n'utilisent des valises à roulettes, compte tenu du fait que...
Du bruit ?
Voilà, le bruit, et que les résidents se plaignaient de ne plus tout simplement pouvoir vivre sans ce bruit de ces roulettes qui heurtent les pavés. Et donc on voit qu'effectivement, il y a peut-être un sujet un tout petit peu plus large qui est ces sites européens très 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 touristiques et d'essayer non seulement de protéger ces sites, mais peut-être effectivement de rendre la vie des habitants plus facile.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal de mon point de vue d'ailleurs, et peut-être que vous pourrez nous éclairer sur la protestation justement des résidents. Parce que quand vous parlez du bruit, ça peut paraître anecdotique, mais ce débarquement de touristes journaliers, moi j'aurais imaginé qu'il serait assez favorable à ce qu'on le filtre. Jérôme Cordelier, non ?
Et c'est pas le cas ?
Ben non, c'est pas le cas. Ça protestait aujourd'hui beaucoup, et tous les reportages montraient une colère des résidents.
Oui, oui, non, c'est vrai que c'est
un curieux. Peu comme, oui. Mais vous alliez dire, vous vouliez.
Non, je voulais juste dire, non, mais sous forme de boutade, je voulais dire, le problème de tout ça, c'est que ça va donner des idées peut-être à Anne Hidalgo, quoi.
C'est-à-dire
bah, de mettre un péage à l'entrée de Paris et de faire payer l'entrée de Paris historique.
Alors, est-ce que c'est comparable? Là, juste pour rester sur un instant sur Venise, mais on viendra à Paris après, mais parce que Venise, c'est les dégâts du surtourisme. On a compris depuis des années tous ces processus, ces procédés qui sont mis en place pour essayer de freiner les vagues, des ferries qui arrivent. Enfin, c'est des sommes colossales qui sont... Il y a cet enjeu-là, quand même. Là, il y a une compensation pour les dégâts, en fait, de ce surtourisme.
Bien sûr. Sur un site qui est un site qui est potentiellement menacé. Donc, effectivement, c'est pas du tout la même chose que les villes comme Londres aussi, qui ont adopté un principe de péage à l'entrée pour essayer d'endiguer la circulation automobile dans le cœur de la ville. À Venise, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de circulation automobile au centre de la ville. On est obligé de laisser sa voiture à l'entrée dans les grands parkings qui sont à l'entrée de la ville. Après, on a ces toutes petites ruelles, les fameuses petites calles de Venise qui sont tellement extraordinaires. Mais
et qui ne sont pas forcément surchargées, parce qu'en gros, voilà, ils sont tous sur la place Sama ou sur les lieux très touristiques. Peut-être c'est un autre enjeu, ça, Pierre Planchard.
Oui, non, mais excusez-moi, dans les propos des associations locaux, là, pour répondre sur ce que vous disiez, en fait, ce qui reproche, c'est d'utiliser un levier qui, quelque part, aussi enfreint la liberté de circulation, mais surtout est inefficace. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la régulation des locations touristiques. Mmh. Ils disent notre ville prétend agir, mais n'agit pas. Ils veulent des mesures encore plus fortes et ils estiment que ça ne suffira pas, alors que ça les privera voilà, d'une circulation, pour revenir là-dessus.
C'est-à-dire qu'il faut les empêcher de loger sur place.
Bah, limiter, comme certaines villes en France le font. Hein, c'est-à-dire qu'on a ça à Saint-Malo, l'île de Ré vient de prendre des mesures, c'est de limiter en fait, le nombre de logements touristiques qu'il peut y avoir. Alors, il y a des quotas par commune pour que, effectivement, ça ne dépasse pas un certain seuil pour ne pas avoir surfréquentation et puis surtout que les gens puissent continuer à se loger, puisqu'on sait que l'impact que ça a sur le prix de l'immobilier.
20h, 21h. France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On se penche sur le surtourisme, sur la façon de le réguler, de le limiter, d'en limiter les dégâts. On est avec Claire Planchard du groupe EBRA, Bruno Cotrès du Cevipof, Jérôme Cordelier du Point, que des gens qui adorent Venise, évidemment, lieu magnifique. Alors, il y a eu des tentatives qui ont été faites par différentes villes, Saint-Sébastien et Barcelone, par exemple, limitent les groupes à une vingtaine de personnes. Et je crois qu'il n'y a pas de haut-parleur pour les guides. Au Mont Fuji, au Japon, cet été, il va y avoir un quota pour emprunter le sentier, le fameux sentier qui mène au Mont Fuji. Je dis fameux, je n'y suis pas allé, mais bon, le plus populaire en tout cas, et avec 12 euros pour accéder. Enfin, il y a différentes façons, mais une ville, encore une fois, ça n'est pas, ça n'est pas commun. Vous faisiez le parallèle, Jérôme Cordelier, avec Paris.
Oui, non, mais enfin, c'était une plaisanterie, c'est-à-dire...
Ah bah non, mais voilà, si vous le dites, vous le dites.
non, mais c'est vrai que comme Anne Hidalgo a souvent des idées comme ça, donc... Ça pourrait... Bon, il y a déjà eu, de toute façon, la question du péage à l'entrée de Paris. Hein,
mais pas forcément pour les touristes.
Non, pour tout le monde. Et donc, si on se met à faire ça, ça peut donner, réveiller de vieux fantômes. Hein.
Ça, on est où, ça c'est quelque chose.
Moi, je crois que pour l'instant, c'est encore... Enfin, c'est dans les limbes.
C'est de toute façon pas le moment avec les JO, évidemment, mais... Claire Planchard.
Oui. On a des petits enjeux de transport et de fréquentation, oui. Non, mais c'est sûr qu'on parle en fait de surtourisme, mais c'est la régulation des flux. Il y a des lieux qui sont en sous-tourisme, qui auraient besoin en fait d'avoir des visiteurs, des gens qui viennent, et c'est ce que font beaucoup de régions. C'est-à-dire, vous êtes tous attirés par exemple, les falaises d'Étretat, mais sachez qu'on a une côte magnifique à côté, et que si vous voulez ensuite aller visiter le reste de la région, c'est très intéressant. Il y a des villes qui ont fait des partenariats avec Waze pour que au Mont-Saint-Michel, cette heure-là, c'est infréquentable. Venez plus tard ou allez à tel endroit auparavant. Et c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives. Au Mont-Saint-Michel, il y a des navettes qui sont régulées, il y a moins de navettes. On a beaucoup parlé des calanques entre Cassis et Marseille. Il y avait un problème, mais vraiment une atteinte à la nature. Ils ont instauré un système non pas payant, mais de réservation et de quotas qui fait que régulièrement, les gens désormais sont moins nombreux. La nature reprend ses droits. C'est un lieu préservé qui va. Mais on est évidemment avec les réseaux sociaux, il y a un marketing autour de destinations qui sont très très séduisantes. Je crois que c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui disait que 95% des touristes vont sur 5% des territoires émergés En fait, il y a une concentration des touristes dans des lieux d'un intérêt, bien sûr, très intéressant, mais il y aurait intérêt à ce que la population aille à d'autres endroits, à d'autres horaires. Il y a même des gens qui disent pourquoi pas des visites la nuit de certains sites, essayer de, pour qu'il y ait moins d'affluence et que, voilà, le patrimoine, que ce soit historique ou naturel, ne soit pas détérioré par cette fréquentation.
Tout le monde est désolé de voir les détériorations. Comment vous expliquez? Quels sont les freins? C'est quoi? C'est des enjeux économiques? C'est des enjeux politiques aussi? Ils n'ont pas forcément envie, si on reprend Venise, depuis le temps que, encore une fois, depuis des décennies que c'est un problème, ils n'ont peut-être pas envie de fermer la porte et de...
Non, c'est impossible.
Bruno Cotterès, comment vous...
Bien sûr, c'est impossible. C'est à la fois les paradoxes d'un monde incroyablement ouvert. Depuis 20 ou 30 ans, les possibilités de se déplacer pour aller visiter le reste du monde se sont démultipliées de manière fantastique. Et en même temps, ça a créé de nouveaux comportements potentiellement difficiles pour la préservation des sites, la préservation de la nature, la préservation de la planète. Et on voit toutes ces contradictions. On a pensé, par exemple, qu'un des legs du Covid, ça serait de baisser le nombre de voyages en avion. Et puis on voit que les chiffres des compagnies aériennes sont revenus...
Sont repartis à ce qu'ils étaient.
Donc il est très difficile d'expliquer aux populations que nous vivons dans un monde ouvert avec des fermetures. Au fond, c'est un peu ça le problème. Donc il faut agir sur les deux autres leviers. Le levier de la quantité, effectivement, limité. On voit effectivement sur des côtes françaises qu'on est obligé... effectivement, là aussi, de limiter, d'empêcher que les gens même se mettent en danger au bord des falaises. Et puis, la question de la qualité, c'est la répartition dont parlait Claire Planchard, qui est qu'effectivement, de ne pas avoir cette surconcentration sur quelques lieux touristiques emblématiques. C'est un enjeu très important du développement d'un tourisme de qualité dans des parties des pays qui sont moins exposés. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer partout et tout le monde en grand centre touristique. Ça serait alors là un autre effet complètement pervers de ça. Mais on voit, voilà, c'est le paradoxe de ce monde complètement ouvert et en même temps qui doit de ce fait-là davantage protéger ses sites et sa nature.
Ça peut être un symbole, Venise, un déclencheur de quelque chose. Quand même, ça va marquer les esprits, quoi. Si Venise y vient à cette question du surtourisme, est-ce que ça peut déclencher quelque chose de façon une prise de conscience un peu plus large?
Après Venise, Rome, puis après tous les lieux touristiques, voilà. Mais bon, après il faut aussi éduquer les gens. Ça, c'est un vaste programme. Éduquer les gens à la protection et puis à garantir la beauté, quoi.
Bruno Cotterès.
Voilà, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça commence à 5 euros et que dans quelques années, le tarif soit multiplié par 4, 5. Parce que là, ça poserait d'autres problèmes qui seraient le problème d'un filtrage social. Parce que si on est une famille de 4-5 personnes, 5 euros, ça peut commencer à représenter. Par contre, si ça devenait 10 euros, 15 euros, là, ça va être un problème.
Mais si on part dans la fiction, on pourrait se dire aussi, il ne faut pas que ça devienne comme la grotte de Lascaux. Si vous voulez, maintenant, la grotte de Lascaux, il y a 4 grottes de Lascaux et la dernière donc, est numérique et complètement virtuelle.
Il faudrait une reconstitution.
Et donc, il faudrait pas un Venise virtuel qui soit à 10 km du Venise réel qui deviennent inaccessibles.
Allez, dites-nous ce qui fait la une du Point cette semaine.
La une du Point, c'est une grande interview, longue interview passionnante de Elisabeth Badinter, qui sort un nouveau livre, voilà, qu'a interrogé longuement Valérie Toragnan, la directrice de la rédaction du Point, donc sur homme-femme, la défiance. Voilà. Le livre d'Elisabeth Badinter, c'est Messieurs, encore un effort, 3 petits points.
Le vôtre de livre, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. Je le rappelle, c'est chez Calman Lévy. Claire Planchard, à la une des grands quotidiens de l'Est de la France, du groupe Ebra demain.
Et on va parler de l'exploitation du lithium en France. A-t-elle de l'avenir, puisqu'on en a parlé? Le code minier a été simplifié pour essayer d'accélérer ça et ça concerne les zones du groupe Ebra. Donc on revient dessus.
Merci à tous, merci à Bruno Cotterès du CEVIPOF. Demain, les informés, c'est à 9h avec Jean-Rémy Baudot et Renaud Dely. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.